pas de suspension, pas de moratoire. La hausse des taxes sur les carburants est tout simplement annulée. C'est le coup de théâtre d'hier soir, une décision totalement inattendue. Bonjour Bruno Questel.
Bonjour.
Vous êtes député de l'Eure, vice-président du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Vous êtes en charge des territoires spécifiquement. Avant de rejoindre En Marche, vous avez été pendant une dizaine d'années au PS. Alors il y a une semaine, on ne changeait rien. Il y a deux jours, on proposait un moratoire aux Gilets jaunes. Et alors maintenant, on annule. Il n'y aurait pas un peu panique à bord? C'est le sentiment que ça donne.
Panique à bord, je ne crois pas qu'on puisse dire ça très objectivement. On est aujourd'hui dans la contestation que la situation est tendue, hein, c'est indéniable. Le week-end prochain s'annonce assez animé sur la capitale, vous le savez. Il faut donc dans ces cas-là que les pouvoirs publics aussi prennent acte de la situation et prennent les mesures adaptées pour ramener tout le monde un peu à la raison et qu'on puisse se remettre autour de la table pour discuter.
Non. Mais comprenez quand même qu'on soit surpris, le Premier ministre a passé l'après-midi hier à l'Assemblée à parler de ce moratoire qui avait été décidé. Il y a même eu un débat avec tous les partis. Vous avez été appelé à voter, vous les députés, hein, sur ces mesures. Et quelques heures après, on apprend que finalement, il y a une annulation.
Alors c'est une annulation en le sens où le dispositif adopté à l'Assemblée nationale en première lecture, annulé au Sénat, ne sera pas réintroduit par l'Assemblée nationale
en 2019,
en deuxième lecture, pour l'année 2019. Donc oui, on annule pour le dispositif du budget sur l'année 2019. On va faire ce débat pendant plusieurs mois sur le territoire et on va mesurer combien nos concitoyens sont capables et en mesure de se mettre aussi dans la volonté et la capacité à travailler les choses au fond pour que nous puissions avancer sur la question de la transition écologique.
Mais vous comprenez bien quand même qu'on a l'impression que le Premier ministre est clairement désavoué là quand même. Il a défendu une mesure qui finalement n'avait plus lieu d'être deux heures après.
Le président de la République, dans le cadre de ses prérogatives, a clairement exprimé hier soir, en fin de journée, la volonté que l'exécutif et le Parlement prenions le temps maintenant de l'explication, de l'échange et du travail en commun.
Il y a eu un gros cafouillage aussi sur l'ISF. Il y a deux ministres, Benjamin Griveaux et Marlène Schiappa, qui disaient hier qu'il n'était pas exclu que l'ISF soit finalement rétabli en cas d'évaluation négative de cette réforme. Et hier soir, à nouveau, l'Élysée fait savoir que, eh ben non, Emmanuel Macron exclut de revenir sur cette réforme. On a l'impression que ça navigue à vue en ce moment.
Vous avez ce sentiment que je peux comprendre ou entendre, nous, un peu le nez dans le guidon. Je ne le nierai pas à l'Assemblée nationale, nous sommes aussi à l'écoute de l'exécutif, nous adaptons aussi notre travail. Vous le savez que l'exécutif mène le législatif dans le cadre des équilibres de la Constitution. Il nous faudra effectivement analyser l'impact de la substitution de l'IFI à l'ISF pour mesurer combien celles et ceux qui ont pu en bénéficier ont effectivement réinjecté ces liquidités dans l'économie française et non pas dans des comptes à l'étranger.
Mais vous pensez que c'est une bonne réforme, ça?
Laquelle? L'IFI?
Oui.
Écoutez, je l'ai voté, je suis solidaire, je suis membre de la majorité, je vais donc pas me cacher derrière mon petit doigt pour me dire on n'aurait peut-être pas dû.
Vous l'avez mal expliqué, comment ça se fait que c'est si mal perçu par les
Gilets
jaunes?
Je pense que nous avons beaucoup travaillé, c'est quand même assez reconnu. Deux fois plus que d'habitude et peut-être pas été assez attentif à mesurer.
Beaucoup travaillé, ça veut dire beaucoup trop, plus de réformes que les précédentes.
Oui, beaucoup légiféré.
D'accord.
Et peut-être pas été assez attentif à l'impact de ce qu'auraient toutes ces mesures sur le commun des mortels qui, dans son quotidien, avec des salaires au SMIC à un peu moins de 1200 euros, sont pas en capacité d'accepter des dispositifs où on voit les zéros s'aligner sur les mesures adoptées et le décalage est trop grand.
C'est ce qu'ils vous ont dit, les Gilets jaunes que vous avez rencontrés à plusieurs reprises dans votre circonscription de l'Eure? Parce que vous faites partie des rares qui sont allés les voir.
Et oui, j'irai ce soir à une réunion publique. Oui, parce que ça fait aussi partie du boulot d'aller au-devant de ces femmes et ces hommes qui manifestent quand même une préoccupation importante, qu'il faut prendre en compte, dont il faut avoir pleinement conscience. Ce qu'ils disent, oui, c'est l'impôt sur la fortune, c'est pour nous insupportable. Donc ça, on doit aussi le comprendre, l'analyser, et puis aussi être capable de discuter avec l'exécutif pour les semaines et les mois à venir pour adapter les choses à ce que chacun puisse y trouver son compte.
Et vous pensez que l'annulation de la hausse de la taxe sur les carburants, ça va suffire à annuler les manifestations de samedi ou de toute façon il y aura du monde à Paris samedi?
Je pense qu'il y aura du monde à Paris samedi et je pense que toutes les personnes qui viendront à Paris samedi ne seront pas animées des mêmes intentions.
Vous craignez, comme l'Élysée, un mouvement de grande violence avec même l'Élysée dit avec des milliers de personnes qui viendront pour casser et tuer?
Déjà la semaine dernière, il y a des personnes qui ne sont pas venues pour se promener à Paris ou simplement manifester. Des armes par destination ont été retrouvées. Il est des hommes dans ce pays principalement qui sont aujourd'hui animés par une volonté d'en découdre avec les institutions, le pouvoir exécutif et placer notre République en danger.
Vous savez s'il est vraiment envisagé de déployer des véhicules blindés dans la capitale?
Je n'ai pas d'informations à titre personnel sur cette question-là.
Est-ce que, comme d'autres élus locaux, dans vos circonscriptions, vous avez déjà reçu des menaces, des insultes? Est-ce que, parce que certains disent ça va mal finir ce quinquennat. Est-ce que vous aussi, vous sentez un peu fébrile vis-à-vis de ça?
Alors, vous savez, des insultes, moi je suis élu depuis de nombreuses années, élu local, les insultes c'est un peu monnaie courante, hein. Quand on est élu, on s'expose un peu. Et donc là, en l'occurrence, oui, j'ai reçu des insultes par courrier, par mail ou autre, des menaces de mort.
Justement, puisque vous êtes élu depuis longtemps, est-ce que vous... il y en a plus qu'avant?
Il y a une forme de tension, il ne faut pas le nier.
D'accord.
Il y a un décalage, il y a une crise de la démocratie, il y a une crise de la République dans notre pays.
Est-ce que la raison de ça, c'est qu'il y a une déconnexion des élus avec le terrain? Vous vous le dites, vous êtes allé auprès des Gilets jaunes, tous vos collègues ne l'ont pas fait.
Hein. Néanmoins, je ne suis pas tout seul. Je voudrais aussi qu'on ne pense pas que nous ne sommes que quelques-uns à l'avoir fait. Plusieurs de mes collègues, femmes et hommes, y sont allés, ont tenu des réunions. Ça a été parfois difficile, notamment pour les collègues femmes qui se sont faites un peu chahuter, parce que c'est toujours plus facile de chahuter une femme quand on est 200 personnes face à elle. La déconnexion, elle est là depuis longtemps. La déconnexion, elle était là aussi présente lorsque 50% des Français ne sont pas venus voter au deuxième tour des élections, en juin 2017.
Mais vous n'êtes pas sans savoir que La République En Marche a l'image d'un parti élitiste. C'est la France qui a réussi quand même.
La République En Marche est le parti du président de la République. C'est un parti jeune, qui n'a pas d'ancrage territorial. C'est un parti composé de femmes et d'hommes venus d'horizons divers. Il y a aussi des gens qui étaient dans des situations de précarité, hein, qui ont été élus députés. Mais il y a la moitié de mes collègues qui n'avaient jamais fait de politique, qui certains ont brisé des carrières professionnelles pour s'engager derrière le président de la République.
Mais c'était des gens qui avaient une bonne carrière, une bonne situation.
Oui, mais celle-ci est terminée pour eux.
Je suis d'accord. Mais c'est pas représentatif de toute la société française, même si ce sont des personnes qui venaient du terrain et qui venaient pas de la politique.
J'ai pas eu le sentiment que la société française soit, dans le temps passé, ces 10, 15, 20, 30 dernières années, manifestement bien représentés, sinon on n'aurait pas eu cette crise que j'évoquais tout à l'heure.
Vous avez écrit un tweet récemment qui dit « Nos concitoyens ne croient plus en la parole publique et en la République ». Pourquoi ?
C'est mon sentiment profond, effectivement, parce que, vous l'avez souligné, j'essaye d'être sur le terrain le plus souvent possible, et on le voit bien dans le regard, dans la défiance, dans les mots employés. Il y a une vraie cassure qui date, encore une fois, depuis de nombreux mois, de nombreuses années, une vraie défiance qui s'est instaurée. Et c'est notre travail maintenant de restaurer ce lien, de restaurer cette confiance et de maintenir notre pays dans un cadre républicain.
Il faut que le président s'exprime.
Il va falloir à un moment que le président s'exprime.
Et le regain, le retour de la confiance, ça passe par cette concertation qui va être organisée là dans les prochaines semaines avec les Gilets jaunes sur la fiscalité écologique et tous ces sujets-là.
Alors tous ces sujets effectivement devront être mis sur la table dans le cadre de cette concertation pendant plusieurs mois sur les territoires. Nous y prendrons une part active. Ça sera un des éléments de la reprise de confiance, mais ça ne suffira pas indéniablement compte tenu de la nature de la défiance installée.
Il faudra quoi d'autre ?
Il faudra continuer le dialogue, il faudra inonder le territoire de notre présence pour aller au-devant de ces femmes et de ces hommes, expliquer les choses, parfois aussi reconnaître nos erreurs, parce que comme tout un chacun, nous avons pu en commettre.
Est-ce que vous arriverez encore à réformer après cette crise ou est-ce que, comme d'autres, vous dites que le quinquennat est terminé ?
Non, si le quinquennat était terminé, à la limite, je ne serais pas devant vous ce matin.
Merci beaucoup, Bruno Questel, député de l'Eure et vice-président du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Vous étiez l'invité du 5-7